Bon matin. Ça me le fait à chaque fois. Chaque fois que je me retrouve devant vous, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vraiment à leur dire? C'est une bonne chose que ça me le fasse à chaque fois, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre sérieusement d'être devant puis de partager. Ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que le Saint-Esprit vous parle, lui, ce matin. Parce que j'ai pas moi-même grand-chose à vous dire. Par contre, je crois que Dieu veut nous amener toujours plus loin dans sa dépendance de lui et puis dans la révélation de qui il est. Puis c'est ça que j'espère ce matin. Mais avant, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne un 10 secondes, 15 secondes d'applaudissement? Vous êtes d'accord? Attendez, je vais vous dire pourquoi. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Les 15 secondes d'applaudissement, c'est pour... Est-ce qu'il y a des parents célibataires dans la salle? Je suis en train de terminer une semaine de père célibataire. J'avais déjà énormément de respect pour les parents célibataires parce que, ou les familles monoparentales. Ma mère m'a élevé seule, donc je sais ce que c'est du côté des enfants. J'ai énormément de respect, un profond respect. Mais là, j'en ai encore plus. Et pour les mamans, en général. Fait que je propose qu'on prie pour, qu'on applaudisse, qu'on honore, qu'on applaudisse les parents célibataires, monoparentaux, et aussi en même temps les mamans. Alors on y va fort. 15 secondes. Yes. Fait que bravo. Qui c'est qui a une Bible ce matin? Ok, alors ceux qui ont une Bible, j'aimerais bien que vous la sortiez. On va lire ensemble Exode 32. Je ne vais pas forcément revenir sur tous les versets, mais je trouve que c'est le fun qu'on puisse proclamer la parole ensemble. Alors ce que je propose, c'est qu'on fasse par tranche de 5 versets. Le contexte, c'est que, bon, on a vu, hein, c'est tous les messages qu'il y a eu jusqu'à maintenant, mais entre autres, le peuple, ils ont vu la mer rouge, ils ont vu la manne, ils ont vu de l'eau sortir d'un rocher. Ok? Ça, c'est le contexte. Hein. Ça, il faut que je. Au niveau des jours, il me semble que c'est quelque chose comme une quarantaine de jours, là. 48 jours. Ça leur a pris comme 8 jours. Puis là, ils sont rendus à 40 jours, 48 jours. Donc, on est vraiment au début des 40 ans. Hein. C'est après qu'il y a les 40 ans qui partent, là. On est juste sur les starting blocks. Puis ça commence déjà un petit peu à foirer. donc, ils ont vu tout ça. Moïse a dit qu'il partait 40 jours. Là, c'est 40 jours, puis Moïse n'est pas de retour. Pourquoi est-ce que c'est un si grand problème? Parce que là, ce qui se passe, c'est que le peuple, au début, j'ai lu des choses comme quoi, il y a des gens qui ont essayé d'excuser Aaron, hein, y a des textes entiers qui sont écrits là-dessus pour excuser Aaron, parce que pour certains, c'est très important d'excuser Aaron, parce que c'était quelqu'un de connu, c'était un des pères. C'est un exemple, si on veut. Hein. C'est un homme qu'on a envie, on n'a pas envie que ça soit sa faute, dans le fond. Donc, il y en a qui ont dit qu'il a essayé de gagner du temps parce qu'il leur a demandé c'est toutes des affaires plausibles, hein, qu'il a essayé de gagner du temps parce qu'il leur a demandé d'amener leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs anneaux, puis que peut-être qu'il s'est dit, peut-être qu'ils le feront pas, ok? Puis qu'il a essayé de gagner du temps un maximum, en espérant peut-être que Moïse, il arriverait dans ce laps de temps, ok? C'est plausible, ok? Mais ma question, c'est pourquoi est-ce que c'était un si grave problème que Moïse ne revienne pas, à votre avis? Exact. Le conducteur. Le peuple y suivait qui? Dieu ou Moïse? Le peuple suivait Moïse. Ok. Le peuple ne connaissait pas vraiment encore Dieu. Dieu ne s'était pas présenté, il avait montré des choses sur lui. Okay, ils avaient eu l'occasion de voir des affaires se passer, Mais pour une bonne partie, c'était Moïse qui les avait faites, là. Alors, par la puissance de Dieu, Dieu était en train de se révéler, mais on parle de 3 semaines, non, c'est pas vrai, 5 semaines après, quelques semaines après que ils ont vu la mer Rouge, ils ont vu la manne, ils ont vu l'eau sur le rocher, des affaires comme ça. Donc, réfléchissez à ce qui s'est passé il y a deux mois. Hein. Cette faculté qu'on a d'oublier ce que Dieu a fait. Mais surtout, ils n'avaient pas compris vraiment que c'était Dieu, pour la plupart, qui avait fait ça. OK? Fait que, quand Moïse ne revient pas, ils sont perdus. Ils n'ont plus de Dieu. Ils ont plus rien. Puis, c'est là que c'est intéressant, parce que c'est Dieu qui l'avait voulu comme ça. C'est Dieu qui allait chercher Moïse. Hein, Moïse, il ne voulait pas. Hein. Je pense que Moïse a été assez clair. Moïse, dès le début, dès sa première apparition avec Dieu, dès sa première rencontre avec Dieu, il discute avec Dieu, dès le début. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça c'est quelque chose d'extraordinaire avec Moïse. D'entrée, Moïse ne connaissait pas plus Dieu que ça, il discute avec lui. Je me suis posé plein de questions humaines. Pourquoi? Je me suis dit, peut-être ça l'a aidé d'être en Égypte puis de fréquenter les divinités comme il l'a fait. Il a acquis un profond respect de Dieu, hein, directement, mais tu sais, c'est comme il avait ce... Pour lui, c'était normal de parler avec Dieu. Mais dès le début, il parle avec Dieu. Hein, il discute, il marchande avec Dieu. Il dit, non, envoie-moi pas. Check, je sais pas parler, etc., etc. Il lance un bâton par terre. Le bâton devient un serpent. Il dit non, mais ça suffit pas. Tu vois d'entrée que Moïse était un homme exceptionnel. Puis Dieu a choisi Moïse. Après, il lui a donné Aaron, hein, parce que Moïse a voulu quelqu'un à ses côtés. Mais Dieu avait choisi Moïse. Puis pour l'instant, il avait choisi personne d'autre. OK? Puis on verra par la suite, il y a d'autres épisodes où il y a d'autres personnes qui veulent se mettre aussi, si Moïse et Aaron, ils peuvent entendre Dieu, nous aussi, on peut entendre Dieu. Il n'y a pas une bonne fin pour ces gens-là. Ceux qui ont voulu s'auto-promouvoir parce qu'ils estimaient qu'eux aussi, il n'y a pas une bonne fin pour eux. Donc, première leçon qu'on peut apprendre, on n'a pas intérêt à s'auto-promouvoir. On n'a pas intérêt à se mettre en intermédiaire de Dieu. C'est rare. Là, Dieu est en train d'enseigner qui il est. Donc, il y a plusieurs choses qui interviennent. Après, je veux pas m'étendre sur le reste du temps en Israël, mais dans le désert. Mais il faut bien comprendre que tout ce temps-là, Dieu est en train de révéler qui il est. Donc, il s'est présenté pour la première fois à Moïse comme Yahweh, hein, qui est un Dieu. C'est un Dieu insaisissable. On peut pas le décrire. Je suis celui qui suis, je serai celui qui serai. C'est Dieu. C'est insaisissable. Il est plus grand que tout, plus fort que tout. Puis Dieu est en train de se révéler gentiment au peuple qui il est. Ça prend des années et des années et des années. On parle pas d'un peuple qui connaissait Dieu. On parle d'un peuple qui avait vu certaines choses. On parle d'un peuple qui a été sorti d'Égypte. Mais on parle pas d'un peuple qui connaissait Dieu. D'accord? Donc, ça met des années et des années à révéler qui il est. Et il a utilisé un homme pour ça. Mais cet homme-là, il est plus là. On sait pas combien de temps il a tardé, hein. On parle pas de 3 semaines, là. Mais tout d'un coup, et puis, donc, ces gens-là qui ont écrit des choses pour excuser Aaron, je veux bien croire ça. Aaron, il semblerait que le peuple était hors contrôle. Que Aaron sentait que de toute façon ils allaient faire une bêtise, alors il s'est dit autant que ça soit, parce que c'est comme ça qu'il se justifie, hein. Autant que ça soit moi qui fasse le taureau, je l'ai fait tout seul, autant que ça soit moi qui fasse une idole, parce que de toute façon ils auraient pu faire pire. Ok? Aaron, il se retrouve à une place que probablement si lui il était content d'être Aaron, ce moment-là là, il était pas super content d'être Aaron. Il aurait probablement pas voulu être là, hein. Quand il y a plein de si seulement j'étais en vue, si seulement j'étais un leader plus connu, si seulement on me connaissait mieux, si seulement ça, si seulement j'avais plus de responsabilités. Bah quand t'es dans ce genre de moment où t'as un peuple entier qui se rebelle, qui dit fais-nous de quoi, trouve-nous des dieux, t'as pas envie d'être là. Il essaye ce qu'il peut, hein, parce que on voit, il construit un veau, puis après, donc il commence à l'adorer. pas Aaron, mais le peuple, il dit, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Puis Aaron, lui, il dit, ok, je vais vite faire un autel devant. Fait qu'Aaron, lui, il construit un autel pour le Seigneur, puis il dit, demain, on va faire une grande fête pour le Seigneur. Il essaye de dire, non, c'est pas ça, mais on va faire une grande fête pour le Seigneur, ok? Donc Aaron essaye, à sa manière, de comme rediriger l'adoration vers Dieu. Donc, la question, pourquoi est-ce que le peuple, pourquoi c'est si grave que Moïse soit pas là? Parce que le peuple n'a plus rien. Parce que le peuple suivait Moïse. Une bonne partie, en tout cas. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Moi, ça me fait penser à Jésus aussi. Il y a plein de gens qui ont vu Jésus faire des choses, mais qui ne connaissaient pas Dieu pour autant. Puis on va voir comment est-ce qu'on connaît Dieu. On va le voir un peu plus tard, on va essayer de le garder pour la fin. Puis j'aimerais, mon challenge, je vais essayer d'aller court. Je vais essayer de nous emmener quelque part, puis les dernières 10 minutes, on les vive ensemble, pour qu'on puisse se rapprocher ensemble de Dieu. Donc ça, c'est mon défi, ok? Je pense que j'en ai pour une heure, mais je vais essayer de faire ça en 10-15 minutes. Donc les Israélites, ce qui se passe, c'est qu'ils ont perdu leur connexion à Dieu. Ils ont perdu leur repère, ils ont perdu leur sécurité. Moïse, peut-être, il est mort. Donc, ils se disent, on va faire quelque chose de tangible. OK? On va faire quelque chose qu'on peut toucher. Au début, ils ne voulaient pas nécessairement avoir un nouveau Dieu. Ils voulaient juste avoir une représentation tangible. Ils se sont inspirés de... Il y en a qui disent que c'est le dieu Apis, qui est un dieu égyptien. Je trouvais ça assez spécial parce qu'il parlait que c'était le dieu de la fertilité, de la sexualité. Je voyais pas nécessairement le lien avec l'époque, là, mais pour nous, je pense que quand on parle d'idole, on s'entend que la sexualité, ça peut en être une. Donc, ils veulent toucher quelque chose. Donc, ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce que c'est si grave qu'ils aient fait ça? Et imaginez, essayons de les comprendre. Parce que, d'ailleurs, je veux juste vous dire, dans Matthieu 23, Jésus, je pense que c'est dans Matthieu 23, ouais. Les pharisiens, eux, ils disent, nous, on est de Moïse, le peuple, ils cassent du sucre sur le dos du peuple. Ils disent, ouais, le peuple, ils n'avaient rien compris, les Israélites n'avaient rien compris, etc. Il y a juste Moïse qui a compris. Jésus, il dit, c'est pas ce genre d'affaire à faire. Il dit, critiquez nos ancêtres. Il dit, ça vous amène vous-même sous le jugement. Donc, ça nous sert à rien de dire, ah, ces Israélites, parce que sinon, ça serait pas dans la Bible. Les choses sont pas dans la Bible pour qu'on dise, ah, ces Israélites, ah, ces Juifs, ah, ces blablabla. Ok, ah, ces disciples. Les choses sont dans la Bible, c'est pour qu'on se dise, mais c'est dans quoi que je peux m'identifier? Hein? C'est quoi que ça m'apporte aujourd'hui? Donc, les Israélites, ils avaient perdu tous leurs repères. Ils connaissaient pas vraiment Dieu. Oui, Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Ils étaient à peu près 1 million. Donc, tu sais, Moïse, il était loin pour certains, là. On s'entend, là. 1 million de personnes. Moi, j'ai jamais été à un rassemblement 1 million de personnes. Mais imaginez, il y avait pas de caméra. Fait que Moïse, probablement, quand il a ouvert les eaux, là, il était loin. OK? Moi, je vois un plan de Dieu assez incroyable. Avec l'ouverture des eaux, puis traverser la mer d'Égypte. C'est parce qu'ils ont tous été obligés de passer par là. Même ceux qui ne voyaient pas Moïse, parce que Moïse était loin, loin, loin devant, ils ont tous dû traverser la mer. Fait qu'ils ont tous vu qu'ils ont traversé la mer. Et ça nous donne une indication de ce que Dieu est en train de faire avec ce peuple, gentiment. Parce qu'il veut d'abord expliquer qui il est. C'est pour ça qu'il y a autant d'emphase sur sa sainteté, pourquoi il y a un intermédiaire au début. C'est parce que Dieu veut montrer, c'est pas n'importe quel Dieu. Yahweh, c'est pas n'importe quel Dieu. D'ailleurs, moi, je dis ce mot-là, mais sachez que les Juifs et beaucoup de gens ne vont pas prononcer ce mot, hein, par respect. D'accord? On ne prononce pas ce mot-là. On l'a changé par Adonai, on l'a changé par d'autres noms. La plupart des traductions, c'est pas écrit. Hein, dans la mienne, c'est écrit entre parenthèses. Yahweh. Hein. Mais c'est, nous, on traduit souvent en français par le Seigneur, Elohim, l'Éternel. Donc, c'est juste pour vous dire que quand il se décrit comme ça, puis comme ça a été pris au sérieux, on parle pas, c'est pas la même chose. Il y a les dieux, puis il y a Dieu. Et puis, ce qui se passe là, c'est que le problème, c'est que c'est un Dieu qui est invisible. OK? Alors, ils ont perdu ce qui était visible. Ils ont perdu Moïse. Moi, je les comprends. Moi, je ne sais pas où j'aurais été à ce moment-là, honnêtement. Est-ce que j'aurais été amené mes boucles d'oreilles? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais amené les boucles d'oreilles de ma femme? Peut-être, je ne sais pas. OK? Parce que je suis quelqu'un, j'aime ça voir les choses. On verra que ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir voir. OK? Mais là, à ce moment-là, ils avaient besoin d'une sécurité physique. Donc, ils ont été prêts à sacrifier des choses. Pourquoi est-ce si grave qu'ils aient fait ça? Moi, je les comprends. Pourquoi est-ce que c'est si grave qu'ils aient fait ça? Ça, c'est ma deuxième question. Pourquoi Dieu, il a trouvé que c'était si terrible qu'ils aient fait ça? Parce qu'ils ont détourné leurs yeux de Dieu. Pourquoi c'est si grave qu'ils aient fait ça? Ouais, c'est correct, mais pourquoi c'est si grave? Ok, tu ne feras pas d'autres dieux devant ma face. Pourquoi c'est si grave? Hein? Ils n'ont pas compris. Ok. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Exact. Qu'est-ce qui va se passer après si Dieu n'intervient pas à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'appel du peuple d'Israël? Ça a été dit, ça a été lu en début par Luc. Oui, ils partaient adorer au désert, mais quel est l'appel de ce peuple? De sortir d'Égypte, ça c'est Dieu les a sortis d'Égypte, mais ils sont appelés à être des sacrificateurs, des prophètes, des prêtres pour le monde entier, pour tous les peuples. Ils sont appelés à être un exemple d'incarnation, de relation. Donc ce qui se passe, c'est que si eux autres, ils commencent à adorer le veau d'or, c'est Nous, là, on peut être content que Dieu, il ait intervenu dans cette situation. Il aurait trouvé peut-être d'autres solutions. Mais il faut bien comprendre, c'est dur ce qui s'est passé après. Hein. Il y a 3000 personnes qui sont mortes, plus d'autres par un fléau, par des ulcères, on verra plus tard. Hein. 3000 personnes qui sont mortes par l'épée, par leurs propres frères, par leurs propres pères, par leurs propres... Donc, ils devaient tuer les gens de leur famille, si j'ai bien compris. Traverser le camp, puis tuer les gens de leur famille. Puis c'est ça qu'ils pouvaient faire, qu'ils restaient proches de Dieu. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication de ça, mais c'est juste pour expliquer, c'est ça l'appel du peuple. D'accord? C'est pas juste d'être un peuple qui a un Dieu un peu plus fort que les autres. OK? Ce qui s'est passé en Égypte, Dieu a comme détruit chaque divinité. Ok, la dernière divinité c'était le pharaon. Hein? Le pharaon était une divinité. Hein? Puis ça c'est peut-être une autre chose en passant que j'ai aussi réfléchi. Pour ceux qui trouvent que quand même Dieu il a endurci le cœur du pharaon. Pharaon là c'était pas un gentil. Là. C'était pas un gentil pharaon. Pharaon c'était quasiment un dieu. Il avait je sais pas s'il y avait grand chose d'humain encore en lui là. Puis Pharaon il a eu plusieurs opportunités avant. C'est quand même quelqu'un qui a grandi en laissant un peuple entier être esclave, en leur donnant plus de tâches. La première fois que Dieu a donné une plaie. Donc pour ceux qui trouvent que quand même Dieu, moi je me pose la question des fois, pourquoi est-ce que nous, on est aussi rapide à accuser Dieu puis dire quand même Dieu t'a endurci le cœur du pharaon? Alors que notre justice humaine, dès qu'il y a quelqu'un qui a violé quelqu'un d'autre, il y a quelque chose en nous qu'on aimerait bien qu'il meure. Je ne sais pas vous là, mais moi quand je regarde des films, si le mec il peut se faire couper la tête au passage ou je suis comme, ça c'est juste. OK? Le méchant, là, s'il se fait exploser, ça, c'est juste. Par contre, Pharaon, quand même, qui se fait endurcir, on trouve pas ça très juste. Rassurez-vous, Dieu est Dieu, Dieu est bon. Pharaon, il a eu sa shot. Rassurez-vous, là. C'était juste au passage. Mais des fois, ça nous apprend à c'est quoi notre cœur. Quelle est notre pensée de Dieu? Pourquoi on est si rapide à aller, en tout cas, moi je parle de moi, à accuser Dieu? OK? Pourquoi on est si rapide à accuser Dieu? Même chose, les Israélites. Pourquoi Dieu dit, plus tard, c'est un peuple rétif? Hein? D'accord? Ils ont eu Dieu a fait plein d'affaires pour eux, mais ils sont inclins à dire, OK, non, ça marche pas. Moïse, t'as quelques heures de retard. Hop, tac, un taureau. Parce que quand même, on a besoin de quelque chose de tangible. Donc, pourquoi on est comme ça? C'est à cause de notre mauvaise connaissance de Dieu. Tout simplement. Les Israélites ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient vu des choses de Dieu. Ils avaient vu des choses de Dieu. Peut-être que certains les attribuent à Moïse, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ce qu'ils connaissaient par contre, c'est les divinités égyptiennes. Hein? Ils connaissaient ce qui se touchait, ce qui était autour d'eux, etc. Je vais essayer de faire un grand saut. Un peu comme les Israélites, je vais y aller comme ça. Le but de Dieu en tout temps, ça a été de se révéler qui il est. En tout temps. Et qui il est, c'est un Dieu d'amour. Il s'est révélé juste après à Moïse. Il a dit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Tu me verras de derrière, tu me verras pas de face, parce que sinon tu mourrais. Mais je ferai passer toute ta bonté, toute ma bonté devant toi. Je vais montrer qui je suis. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu qui veut avoir une relation avec chacun de nous. Là, il voulait avoir une relation privilégiée avec le peuple. Il n'était pas en train de les punir. Il était en train de les protéger. S'il pouvait retenir une chose, pas une punition, une protection. Dieu ne punit pas, il protège. C'est dur, mais ce que Dieu a fait après, c'est parce que pourquoi Dieu était si en colère? Pour moi, pourquoi Dieu était si en colère? C'est pas juste, oui, c'est un Dieu jaloux, mais on sait pourquoi il est jaloux. C'est parce qu'il est jaloux de nous, de notre amour. Pas parce qu'il a besoin, c'est un Dieu qui a besoin pour son ego d'être célébré ou d'être adoré. C'est pas ça, il nous a pas juste créé pour son propre ego. OK, Dieu nous a créés d'amour, de débordement de son amour. C'est pour ça qu'on a été créés. Puis pourquoi il est jaloux? Nathalie, alors que moi j'aimerais la protéger, si elle allait voir un autre gars, ce qui se passe assez souvent, ça se passe chez les gars comme chez les filles, hein. Mais pourquoi c'est si horrible? Il y a plusieurs choses, mais pourquoi c'est si horrible quand quelqu'un va voir ailleurs? C'est parce que puis je suis pas en train de dire que celui qui part a toujours tort, etc. Comprenez-moi bien. Mais imaginez, moi j'ai le cœur de protéger, de protéger Nat. Et puis elle dit non, je vais aller me confier dans les bras d'un autre. Non seulement toi-même, moi je suis brisé en tant que personne, mais aussi c'est tout ce que je voulais me révéler. Tout ce que je voulais, je dis mais moi je voudrais, j'aurais voulu la protéger. Alors, tu sais, j'aurais voulu faire ça pour elle, mais en allant voir ailleurs, c'est comme ça coupe ça. C'est ça qui est terrible pour Dieu aussi. Quand on va voir ailleurs, puis j'en viens gentiment à qu'est-ce que l'idolâtrie. Puis là, j'ai fait vraiment un gros saut. C'est quand, entre autres, on empêche Dieu de se révéler à nous. L'idolâtrie, c'est ce qui nous coupe de Dieu. C'est la stérilité. C'est-à-dire que quand notre adoration, elle ne monte pas jusqu'à Dieu, quand notre espoir ne monte pas jusqu'à Dieu, quand notre sécurité, on ne la place pas en Dieu, mais qu'elle s'arrête à quelque part, soit dans des biens matériels, soit dans des hommes, soit dans des humains, puis elle ne va pas jusqu'à Dieu. Notre espoir, contre notre adoration, notre désir, notre cœur ne monte pas jusqu'à Dieu, ça devient d'idolâtrie. Là où ça s'arrête, c'est de l'idolâtrie. Le seul qui est digne de notre confiance, le seul qui est digne de notre confiance au niveau de notre espoir, au niveau de notre sécurité, c'est Dieu. Si notre sécurité s'arrête ou notre désir, notre espoir s'arrête avant Dieu, Là où ça s'arrête, c'est l'idolâtrie. Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Alors, c'est facile d'aller voir les idoles chez d'autres personnes. J'aimerais, sans jugement, en nommer quelques-unes. Puis après, ce que j'aimerais bien qu'on puisse faire, c'est que j'ai pris des petits bouts de papier. Et puis, je vais vous donner un petit bout de papier à chacun. Puis ceux qui veulent pourraient noter, écrire sur ce papier si vous voyez une idole dans votre vie. Si, par exemple, au niveau de votre sécurité, au niveau de votre besoin d'identité, au niveau de votre adoration carrément, de votre espoir de délivrance, si ça s'arrête ailleurs qu'en Dieu, vous pouvez le noter. Puis si vous voulez vous en débarrasser, je propose après que Luc y jouera un morceau, puis on pourra finir en posant nos papiers. Okay? On va faire ça corporativement. Okay? Ce ne sera pas un moment émotionnel, c'est juste un moment de libération. Pour moi, par exemple, ça a été mon raisonnement. Je mettais mon raisonnement... En fait, je me disais, pur ce que je connais et comprends quelque chose, ça veut dire que je le vis. Donc pour moi, c'est comme... Je mettais ma sécurité dans le fait de savoir des choses. J'entendais quelqu'un qui me disait quelque chose. Encore maintenant, je bataille avec ça. Quelqu'un qui me dit quelque chose que je sais, je suis comme, « Eh, mais je le sais. » Puis j'ai découvert, entre autres, que la raison pourquoi ça vient me chercher... C'est parce qu'une partie de ma sécurité est dans ce que je sais. OK? Si je sais ça, c'est que je suis. OK? Moi, je le savais déjà, ça. OK? Peu importe. OK? Ça peut être... Hein, ça peut être de chercher un conjoint. Quand j'aurai un conjoint, je serai délivré de tout. Quand j'aurai ci, je me sentirai mieux. Ça peut être les biens matériels. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé? Ah, quand j'aurai ça, yes, je serai heureux. Donc, on a fait une retraite avec cinq ados. Puis, j'étais en train de leur parler. C'était à Val-de-Paix. J'avais mon téléphone posé. Puis, ils commençaient à parler. Ouais, alors, en tout cas, c'est fou, hein. Les gens, ils veulent nous faire croire qu'on est heureux si on achète des choses comme des iPhones et tout. Moi, j'avais le mien. J'étais comme... Il trônait au milieu de la table. J'étais impressionné et touché par ces cinq ados qui avaient une soif, qui criaient plus que vous pouvez imaginer, qui ne voulaient pas mettre leur sécurité et leur foi dans des biens matériels, ni dans la beauté, ni dans la réussite, ni dans le succès. J'ai rarement rencontré... Ça m'a redonné de l'espoir. Honnêtement, je voyais Dieu à l'œuvre. C'était des cinq ados qui étaient maganés pour certains, une bonne partie. La vie les avait maganés. Mais moi, j'ai vu beaucoup d'espoir parce qu'ils voulaient pas toutes ces choses qu'on leur offrait. Alors, est-ce que nous, on est là pour leur offrir? Est-ce que nous, on est là pour porter le sacerdoce qu'on a puis de leur offrir cette relation avec Dieu? Ça, c'est une bonne question. Ça peut être la médecine. Hein? C'est beau, la médecine. Mais j'ai espoir que la médecine va me délivrer, que la médecine va me guérir. Dieu utilise ça. Mais c'est pas la médecine qui va nous guérir. Ça peut être l'argent. Un truc tout simple. Imaginez-vous, vous devez aller dans une ville où vous connaissez personne. Soit vous prenez Dieu avec vous, soit je vous donne 3000 pièces. Je suis sûr que vous êtes moins inquiet si je vous donne 3000 pièces. OK? Parce que vous pouvez facilement démarrer. Et où est notre sécurité? Ça veut pas dire que c'est pas bien d'avoir 3000 pièces. Ça peut aussi être des intermédiaires qu'on a. Je pense par exemple Marie, qui peut, quand on va mettre, hein, pour certains catholiques, l'espoir plus haut ou l'espoir en elle de délivrance, puis qui fait que l'espoir s'arrête là. Plutôt que d'aller jusqu'à Dieu. Ça peut être des pasteurs. Ça peut être notre conjoint. Ça peut être un orateur. Ça peut même être une dénomination ou une église. Moi, j'ai rencontré des gens qui croient que parce qu'ils font partie de telle ou telle dénomination, ils sont en sécurité. Ces gens sont en grand, grand, grand danger. En grand danger. Autant en danger que les Israélites qui adoraient le veau d'or. Parce que ce qui se passe, c'est que l'ennemi rôde. Et puis le veau d'or ne va rien faire. La dénomination ne va rien faire pour nous. Nos frères et sœurs peuvent nous aider, mais la dénomination ne nous sauvera jamais. Faire partie de l'église de Luc ne vous sauvera jamais. Même si Luc est extraordinaire. Mais si on commence à sentir de la sécurité dans le fait de faire partie de telle ou telle dénomination, de croire ça ou ça, si notre sécurité est là-dedans, on est en danger. Parce que ça veut dire qu'on fait appel à quelque chose qui n'a pas de vie. Un petit truc, imaginez-vous qu'on ait des gants. Hein? C'est une image que je trouve qui parle beaucoup à chaque fois. Imaginez-vous qu'on ait des gants. Okay? Puis on est fait pour être rempli d'une main. Logique. Okay? Le problème, c'est que la main de Dieu, elle est invisible. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, il y a juste les effets de la main de Dieu qui sont visibles, mais sa main est invisible. Donc, la seule manière de connaître Dieu, d'ailleurs Jésus le dit, hein, ceux qui veulent me connaître, bah, qui gardent ma parole, qui la mettent en pratique, la seule manière de connaître Dieu, c'est que Dieu bouge en nous. Puis du coup, on se voit bouger, puis on dit « Oh, il y a une main invisible en moi !» Ok ? Parce que s'il ne bouge pas, si on ne le laisse pas agir, si on ne met pas en pratique, si on ne le laisse pas se révéler dans l'action, Dieu restera un Dieu invisible, parce qu'on n'aura pas vu ses effets. Puis des fois, on trouve que c'est beaucoup plus facile de le mettre là. On va se mettre là, on va se mettre bien visible, que tout le monde nous voit. On va se mettre sur cette sécurité-là, parce que ça, c'est quelque chose de solide. Le gant, il ne va pas tomber, sauf que c'est mort. Le gant, il ne va pas bouger. Hein? Ça peut représenter la sécurité qu'on a mis ou l'idole qu'on a mis. On s'appuie sur cette idole. C'est pas juste une idole, c'est pas juste dire, oh non, j'ai pas d'idole parce que moi je me prosterne pas devant une statue. Rassurez-vous, on peut avoir des idoles autrement. Ok, Luc parlait de béquilles. Hein? Une idole, c'est ça. C'est quelque chose en qui on met notre sécurité, en quoi on met notre sécurité. C'est ce qui nous empêche, qui nous bloque d'avoir une relation avec le Très-Haut. Moi, je pense, puis j'aimerais peut-être finir avec ça, moi, je pense que Jésus, mais là, je n'engage que moi, que Jésus, s'il était resté plus longtemps sur Terre, Jésus humain aurait peut-être pu devenir une idole aussi. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'essayer de casser du sucre sur Jésus, mais il y en a qui pensaient que parce qu'ils marchaient à côté de Jésus, leur vie était réglée. Judas, peut-être, il pensait ça. Ok, donc Jésus en tant qu'humain, tout ce que on peut maîtriser, tout ce qui n'est pas Yahweh, tout ce qu'on peut contenir, maîtriser, définir, peut devenir une idole. Le seul qui ne peut pas être une idole, c'est Dieu. Parce qu'il est insaisissable, indéfinissable, puis il veut notre relation entière. Puis ça paraît fou, il est invisible, dites-vous bien ça là. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Mais de renouveler toujours notre confiance, notre relation à lui, de nous offrir corps et âme. Jésus, il nous a montré, c'est pour ça que on peut être un intermédiaire pour quelqu'un pendant un court temps. Mais c'est important de rapidement devenir un exemple. Parce qu'un intermédiaire, c'est quelqu'un qui... Pour quelqu'un qui ne croit pas, tu peux devenir un empêchement d'adoration à Dieu. N'importe quel humain. Luc peut devenir un empêchement d'adoration pour vous. Pas parce qu'il le veut. C'est pas lui qui s'autoproclame idole, c'est vous qui le mettez... Vous. Qui pourriez le mettre comme idole. Ok ? Si notre sécurité, on le met dans quelqu'un, on est en train de le proclamer idole. On est en train de l'idolâtrer. Donc, intermédiaire, oui, pendant un court temps. C'est pour ça que la vision qu'on a au Fabricant de Joie, on veut rejoindre en premier, mais la deuxième chose qu'on veut faire, on veut connecter à Dieu. Puis ensuite, on enseigne les enfants. Pourquoi on veut les connecter à Dieu tout de suite ? pour pas qu'il y ait d'intermédiaire, pour pas qu'on fasse comme les disciples qui empêchaient les enfants de venir à Jésus. Ok? Donc ça, c'est peut-être notre responsabilité qu'on a en tant que prêtre, que peuple qui révèle qui est Dieu, c'est de pas être un empêchement. On peut être des exemples qui donnent envie, mais on doit pas devenir des intermédiaires. Fait que je vais m'arrêter là. Une dernière chose que je veux juste partager qui est assez dure. Vous savez que il y a la commission réconciliation qui est en train de se faire au niveau des autochtones, enfin qui a eu lieu. Puis les peuples autochtones sont pas mal brassés ici au Québec en ce moment, hein, dans leur passé, dans leur cœur. Je pense qu'il y a vraiment un temps de guérison qui est en train de s'opérer, mais c'est pas facile. Il faut juste réaliser que nous, quand on est arrivés il y a quelques siècles, eux, ils avaient des idoles. Hein? Ils avaient arrêté de révérer le Tout-Puissant. Puis, pour la plupart, ils révéraient la nature, ils idolâtraient. Hein? Nous, on aurait pu leur amener un Dieu de libération. On leur a amené d'autres idoles. Point. C'est pas les catholiques qui ont fait ça. Ça aurait été des évangéliques à l'époque, ils auraient fait pareil. On aurait juste eu d'autres. Hein? Cassons pas du sucre sur qui que ce soit, là. Les Blancs, on a amené d'autres idoles. C'est ça qui est terrible. Donc, Jésus, il est très dur avec les pharisiens. Il dit, vous êtes en train d'essayer de mettre un poids sur des personnes, vous êtes en train d'essayer de les amener avec vous, mais vous les empêchez. Leur condition est pire qu'avant. Hein? N'essayons pas d'intégrer des gens dans la famille puis que leurs conditions soient pires qu'avant. OK? Donc, c'est ça. Bon. Je suis désolé, j'ai vraiment plein de trucs sur le... Mais je vous propose qu'on fasse le truc des billets. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne encore 2 minutes pour ça? Ou est-ce qu'on ferait ça la prochaine fois? Qu'est-ce que tu penses, Luc? Qu'est-ce qui, dans ma vie en ce moment, m'empêche d'aller... Que mon adoration, ma sécurité, ma relation... Qu'est-ce qui se trouve entre Dieu et moi? Ça peut même être l'avenir. Moi, je suis quelqu'un qui est vite porté vers l'avenir. Toute ma délivrance est toujours dans l'avenir. Ça peut être une idole, l'avenir. L'avenir ne va pas régler vos problèmes. Dieu va régler vos problèmes. Dieu va intervenir. Peut-être pas comme vous le voulez, mais il va intervenir. Et Dieu, c'est un Dieu qui peut agir aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui et demain. Donc si vous pensez que votre délivrance est pour demain, ça peut être une idole aussi. Parce que l'avenir, hein, tu peux vivre dans une double vie. Moi, j'ai tendance. Je rêve. Ah oui, demain, ça, tout ira mieux. Non, non. Tout ira pas mieux sans Dieu. Saint-Esprit, viens nous montrer. Toi qui es l'anti-idole, Saint-Esprit. Toi qui en tout temps, ton cœur et ton but, c'est de nous révéler le Père. Toi, Jésus, qui en tout temps sur terre, n'a pas voulu prendre... pour toi, mais tu voulais révéler le Père. Saint-Esprit, viens nous montrer, viens nous emmener sur ce chemin où tu veux nous révéler le Père. Comme les Israélites. La délivrance des Israélites, c'était le Dieu Tout-Puissant. Notre délivrance à nous, celui qui va nous délivrer, nous sortir d'Égypte, nous garder sur cette voie-là, c'est Dieu. Celui qui nous révèle le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui marche avec nous tous les jours. Celui qui va vous aider à poser ce papier, qui va remplacer ce papier dans vos vies, c'est le Saint-Esprit. Au moment où vous allez poser ce papier, le Saint-Esprit aura plus de place dans vos vies. Au moment où vous allez poser ce papier, vous aurez une relation plus grande avec Dieu. Pas parce que c'est magique. Votre délivrance n'est pas dans l'avenir. La délivrance, c'est maintenant. C'est Dieu. Il va marcher cette délivrance avec nous, mais Dieu, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Je propose qu'on la mette là devant, puis comme ça... Père, merci parce que tu nous as aimés en tout temps. Tout dans la Bible est une histoire d'amour entre toi et nous. À aucun moment tu as arrêté de nous aimer. Merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, viens prendre la place en nous. Puis Père, viens nous aider à t'adorer toi seul. Toi qui es à l'origine de tout, toi qui nous aimes. Qu'on puisse t'adorer, s'appuyer sur toi en tout temps. Tu veux pas qu'on ait une vie sage, mais qu'on puisse te connaître dans l'action, parfois dans la souffrance, mais dans la délivrance. Viens être celui qu'on connaît. Viens être notre Dieu. Amen.